Studio Tamani, voici nos informations en français.
Vous êtes à l'écoute de Studio Tamani, il est exactement 18h. Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition présentielle 2018. 16 des 24 candidats du premier tour demandent la démission du ministre de l'administration territoriale. Ils ont tenu ce matin une conférence de presse au cours de laquelle ils dénoncent des fraudes massives et le bourrage des urnes. Les résultats provisoires du scrutin du 29 juillet ne cessent de susciter des débats au sein de la population et de la classe politique. Nombreux sont ceux qui pensent que la contestation des perdants est dangereuse pour la stabilité du pays. La consommation des médicaments de la rue s'accroît de plus en plus à Bamako et à l'intérieur du pays. Si ces médicaments sont efficaces et moins chers pour les populations, selon les médecins, ils sont plutôt extrêmement dangereux pour la santé. Point complet de ce titre dans un instant avec Assetou Kanté. 16 candidats sur les 24 demandent la démission du ministre de l'administration territoriale. Ils l'ont fait savoir ce matin au cours d'une conférence de presse tenue à Bamako. Le collectif des 16 candidats qui dénonce des fraudes massives et le bourrage des urnes avec la complicité du ministre chargé de l'organisation des élections rejette les résultats issus du premier tour. Ils exigent le recomptage des voix et la vérification du logiciel de compilation des résultats. Le point avec Ibrahima Haran Diallo.
Pour le collectif des candidats protestateurs, plusieurs irrégularités ont témoigné le scrutin de ce premier tour. Pour les candidats, ces irrégularités vont des violations de la loi électorale aux nombreuses fraudes. Il s'agit entre autres des bourrages massifs d'urnes dans le nord et le centre du pays, des cartes d'électeurs indisponibles dans de nombreux bureaux de vote et le trafic de procuration. Pour ces motifs qui entachent, selon eux, la crédibilité du scrutin, le collectif des 16 candidats exige en effet le recompte des bulletins de vote, la publication exhaustive des résultats bureau de vote par bureau de vote et la vérification du logiciel de compilation des résultats. Dans une déclaration lue par le chef de file de l'opposition Soumaïla Cissé, principal challenger du candidat sortant Ibrahim Boubacar Keïta, les 16 candidats réclament la démission du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation Mohamed Aguerlaf, jugé partial et partisan. Le collectif compte s'assumer dans les jours à venir pour défendre ses intérêts contre les institutions électorales si jamais il n'arriverait pas à être mis dans ses droits. Les débats sur la crédibilité du scrutin du 29 juillet se poursuivent alors que les résultats définitifs sont attendus dans les prochaines heures par la Cour constitutionnelle. Il y a quelques jours, les 16 candidats ont récusé certains membres de cette institution, les accusant de manquer de neutralité.
Un des enjeux importants du deuxième tour du scrutin présidentiel du 12 août est le jeu d'alliance. Cependant, cette question n'est pas à l'ordre du jour pour les 16 candidats. Selon eux, il n'y a pas eu encore un premier tour. Ils demandent à l'État de prendre ses responsabilités. Amadou Thiam, directeur de campagne du candidat Aliou Boubacar Diallo, membre du collectif, est au micro d'Ibrahima Haran Diallo.
Et nous avons assisté quand même à quelques heures de scrutin, à un faux jeu de l'administration territoriale qui permettait la vulgarisation des procurations en violation flagrante de la loi électorale. Et donc, il est évident, il est tout à fait normal que nous demandions à ce stade que l'on puisse avoir la liste de ces procurations. Parce que nous sommes persuadés que ce vote ne reflète aucunement le suffrage des Maliens. Pour l'instant, il n'y a pas de deuxième tour, on ne parle même pas de cela. Avant qu'il y ait un deuxième tour, il faut qu'il y ait d'abord un premier tour. Pour nous, il n'y a pas eu de premier tour. Il faudrait que l'on puisse être convaincu du contraire. Et ça, c'est à la charge du gouvernement.
Vous pouvez réagir à toutes ces informations sur notre page Facebook, notre compte Twitter ou encore sur nos répondeurs à travers ces deux numéros, 75 84 11 11 ou le 75 84 12 12. Les résultats provisoires du scrutin du 29 juillet proclamé par le ministère de l'administration ne cessent de susciter des débats au sein de la population et de la classe politique. Si pour certains, le rejet des présumés fraudes et bourrages d'urnes est un droit constitutionnel, d'autres estiment en revanche que cette contestation des perdants est à la fois contre-productive et dangereuse pour la stabilité du pays. Un reportage de Adama Hamadou Aïdara.
Selon de nombreux observateurs, les signes précurseurs d'une éventuelle crise post-électorale se manifestent de plus en plus depuis le rejet des résultats provisoires et l'existence des doutes sur la partialité des sages de la Cour constitutionnelle. Selon eux, les candidats doivent calmer la situation et l'ardeur de leurs militants, car si toutefois ceux-ci contestent encore les résultats définitifs le mercredi mercredi prochain, ça sera le chaos. Écoutons ces gens qui ont réagi sur le sujet.
Ce n'est pas notre espoir d'aller à un RGR, mais s'il y a un RGR de ces résultats, c'est un chaos total parce qu'il faut s'attendre à des manifestations. Hier, sur les réseaux sociaux, on a vu qu'il y a certains jeunes qui ont déjà commencé à brûler les pneus sur les ronds-points. C'est pas des bons signes.
Je sais quand même que si la Cour constitutionnelle donne les résultats définitifs et que ça soit pas ce que le peuple veut, là, j'ai peur, j'ai beaucoup peur pour ce pays.
Par contre, pour d'autres, c'est l'intérêt du pays qui doit être primordial. Selon Seydou Boudié Traoré, retraité âgé de plus d'une soixantaine d'années, les hommes politiques, les leaders religieux et tous les responsables soucieux du bien-être du pays doivent appeler au calme et à la retenue. Pour lui, c'est dans les urnes qu'on doit départager et non dans la rue.
Il y a des bons et des mauvais perdants, certes, qu'à cela ne tienne. Nous, au Mali, nous n'avions pas besoin encore de rajouter à l'insécurité, à la violence, à l'incertitude. Une prière à toute la population, à tous les acteurs politiques. Passons aux générations futures. Ne mettons pas le chaos tout de suite pour notre intérêt ou bien pour notre victoire. Dans tous les cas, il faut qu'il y ait consensus.
Je vous l'annonçais dans les titres, les médicaments de la rue communément appelés Yala Yala Foura sont de nos jours très prisés par les populations. Cependant, ils sont, selon les médecins, extrêmement dangereux pour la santé publique. Pourtant, ceux qui les achètent estiment que ces médicaments sont efficaces et moins chers et disponibles partout, suivant ce reportage de Fatih Attara.
Malgré les vagues de sensibilisation menées par les autorités sanitaires sur la dangerosité des médicaments de la rue, les populations continuent de s'approvisionner régulièrement à la pharmacie par terre. Ceux qui payent ces médicaments contrefaits sont convaincus de leur efficacité et de leur accessibilité. Selon eux, c'est la cherté des produits de la pharmacie qui les oblige à payer ces médicaments de la rue. Écoutons certains d'entre eux.
Médicaments comme paracétamol, aspirine et puis souvent amoxicilline. Quand je parle, il n'y a pas de problème. Quelques jours et puis ça va. Même si la vieille, si elle se plaint, je connais les médicaments que je lui donne aussi, je les donne. Quand je lui donne, elle dit que maintenant ça va. Sans passer aux pharmacies, hein. C'est moins cher que la pharmacie. Parce que si on achète à la pharmacie 50 francs, tu trouveras que peut-être c'est 25 francs.
Les médicaments de la rue, communément appelés Yala Yala Foura,
bon, pour moi,
c'est pas aussi mauvais que ça. Parce qu'il y a des gens pauvres qui n'ont pas le moyen d'aller en pharmacie pour acheter du médicament pour les malades. Bon, ils sont obligés d'aller là-bas.
Quant à la qualité de ces médicaments de la rue, les autorités sanitaires mettent en garde les populations. Selon elles, les médicaments de la rue sont très nocifs pour la santé et leur consommation est susceptible d'entraîner même la mort. Souleymane Diarra est médecin épidémiologiste à l'hôpital du Point G.
Les médicaments de la rue, c'est un danger, une menace même pour la santé publique. Tout n'est pas contrôlé et là, ça peut être à base de la résistance aux antimicrobiens, aux microbes de façon générale. Et déjà, c'est tout ça de fait qui a été constaté par l'OMS comme une menace même pour la santé publique parce que d'ici l'horizon 2050, il y aura des maladies où on n'aura pas de médicaments et qu'on peut mourir banalement d'une maladie simple parce que tout simplement les germes ne répondent plus aux produits. Et là, les médicaments de la rue sont à la base.
Comme solution, des médecins suggèrent au gouvernement d'adopter une politique de subvention pour les pharmacies afin que les populations aient facilement accès aux médicaments de qualité.
Studio Tamani, financé par les gouvernements de la Suède, du Danemark, de la Suisse et par l'Union européenne.
À présent, quelques tours dans les régions. Plus d'une cinquantaine de personnes venues du cercle de Kadjoulou ont participé hier à une formation sur l'aviculture organisée par le Business Center Penda basé à Kadjoulou. La formation a porté sur le traitement, le type d'alimentation et les normes de construction d'un poulailler. Les participants ont été dotés de vaccins pour un an et 5% pour débuter leurs activités d'aviculture. Les prix du kilogramme de la viande du mouton et du bœuf ont connu une hausse de 500 francs CFA diré, selon de 2500 francs CFA. Le kilo de la viande du mouton est vendu aujourd'hui à 3000 francs CFA et celui du bœuf est passé de 2000 à 2500 francs CFA. Les bouchers expliquent cette augmentation par le prix élevé et la rareté des bétails sur le marché. La population demande aux autorités de prendre des dispositions pour mettre fin à cette situation, surtout à l'approche de la fête de Tabaski. La commune de Tarkint dispose désormais d'un réseau orange. Les travaux d'installation avaient commencé depuis 2011, puis interrompus par la crise de 2012. Après un mois d'intenses travaux, le lancement du réseau a eu lieu hier. Populations et autorités ont manifesté leur satisfaction et remercié la société de téléphonie mobile Orange. Dans un instant, ce sera le grand dialogue. Bonsoir à Mohamedou Touré.
Bonsoir à Sétou Kanté.
Alors ce soir, vous allez aborder quel sujet?
Quelle priorité et quel défi pour le prochain président du Mali? C'est le thème du grand dialogue de ce soir. Et nos invités sont professeur Abdoulaye Niang, directeur du centre de recherche Séné, docteur Diakari Poudjougo, juriste chargé de cours à l'université de Bamako, et professeur Issa Ndiaye, spécialiste des questions sécuritaires.
Merci et très bon débat. C'est tout pour cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Restez à notre écoute dans un instant. La question A.